Bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi au bord du bassin pour partir à la rencontre de Blandine. Blandine nous parlera de son changement de ligne de nage en fin de master pour se réorienter et aller vers un CAP cuisine. On parlera donc ici à la fois des motivations derrière son choix, de la façon dont elle construit aujourd'hui sa nouvelle vie professionnelle et son équilibre de vie, mais aussi et surtout la manière dont elle envisage la suite de ses nouvelles aventures. J'espère que cet épisode te plaira et je te retrouve à la fin. Bonne écoute! Bon allez, c'est parti! Bon bah écoute Blandine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton quartier avec ces petits cookies, c'est vraiment drôle. Je vais bientôt passer en phase digestion.
Ok, donc ça veut dire que ça sera à moi de parler après.
C'est ça, on pourra échanger les rôles. Non, avant de commencer, je voulais te poser la question que je pose à tout le monde en début d'entretien. C'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Qui est-ce que tu voulais devenir quand tu étais petite?
Quand j'étais petite, je m'y attendais pas celle-là. Je voulais être pompier.
Ah ouais?
Ouais. J'aurais rêvé être pompier. Mais alors aujourd'hui, tu me demandes d'allumer une plaque avec du gaz, tu t'es fait. Genre, le principe du briquet et du gaz, moi je comprends pas. Je suis en mode, les gars, il y a des plaques électriques qui existent. Pourquoi?
Ok. Ouais. Tu voulais être pompier.
Ouais, je pense que c'est l'attrait du costume, tu vois, je trouve ça stylé.
Non, parce que t'as même pas dit uniforme, mais costume.
Oui, bon bah après voilà, je me suis tournée vers le théâtre et j'ai compris que c'était pas pompier qui m'intéressait.
Ah, c'est pour ça que c'est... Ouais, je comprends mieux. Costume, uniforme, théâtre, ça va mieux ensemble. Ok. Et du coup, après, t'as fait quoi comme étude? Parce qu'aujourd'hui, t'es en cuisine, j'allais dire pâtisserie. Désolée, je pense que je vais faire l'erreur plusieurs fois, mais c'est vraiment le lapsus.
Ma mère l'a fait aussi.
Ok, nickel. Mais non, aujourd'hui, tu es cuisinière, je peux le dire. Et donc, comment t'en es arrivée là? Parce que tu t'es cherchée quand même un peu. Hein.
Je me suis bien cherchée, puis je me cherche encore aujourd'hui, ça peut te rassurer. Ça peut te rassurer. qu'est-ce que j'ai fait comme étude? Bah écoute, comme toute personne lambda, je passais par la grande section. J'étais très forte en dessin à l'époque. J'étais gommette verte. Non, après j'ai fait le parcours bien classique, mais hyper intéressant de... lycée général, première ES, option européenne, etc. Et ensuite, c'est là qu'a commencé la folie des choix.
Ah oui.
Tu sais pas si tu te dis, est-ce que je vais sur un IUT, est-ce que je vais sur Sciences Po. Là, tu comprends qu'il faut passer un concours et qu'en fait, faut être une tronche pour faire ça. et ensuite, la prépa, quoi, c'est le plus logique quand t'es pas trop mauvais en cours, que t'as des bonnes notes partout et que... rester assis devant une table pendant des heures, ça ne te dérange pas, quoi. Et du coup, je suis partie en prépa BL, pour le coup. Je pense que je suis allée chercher vraiment la prépa la plus...
Généraliste.
La plus généraliste du monde, quoi.
Ouais.
Ma mère me disait, faut lire de ES, parce que... C'était aussi les profs qui nous... comment on appelle ça, économie, là. C'était quoi, HEC, les prépas HEC.
Ah, oui.
En mode, vu que tu veux faire une école de commerce derrière la prépa,
mieux.
Comme ça, t'es hyper préparé, puis voilà, tu passes tes deux ans où tu vas un peu en baver, et ensuite ça ira mieux.
Ok.
En école de cours. Et moi, je dis non. Je veux pas lâcher la littérature, je veux pas lâcher l'histoire, je veux pas lâcher la philo. Donc, je vais chercher une autre prépa où ça permet d'avoir aussi tous ces trucs-là. Et je suis tombée un peu par hasard sur la prépa BL.
Okay.
Dans ma famille, on ne connaissait pas du tout ça. Et en fait, autour de moi, très peu connaissaient. Enfin, ils disaient, oui, c'est généraliste, c'est pour ceux qui veulent faire l'ENS. J'étais là. Non, vraiment pas, non. Mais bref, je me suis dit, vas-y, j'y vais, je tente un truc, je tente une admission. J'ai été prise et franchement, c'était trop bien. C'était les deux meilleures années d'études de ma vie. C'était ouf, je me suis fait une trop bonne bande de potes. T'étudies des trucs passionnants à un niveau qui est quand même assez élevé et franchement, si je pouvais y retourner, j'y retournerais direct, quoi. C'était trop bien. Psychologiquement, c'était pas très fun, on va pas se mentir, quoi, mais trop intéressant. Et après, l'école de commerce, je savais dès le départ que je voulais faire ça. J'étais une des seules de ma classe en arrivant en prépa à dire, moi je suis là, mais je passe les concours d'école de commerce. Les autres, ils étaient tous là. Moi, je suis là, mais je fais Sciences Po et ENS. Il y en a qui faisaient pour les cours de presse.
Okay.
Il y avait des tronches. J'étais la dernière de classe. Mais et ouais, non, non. Après, on a été genre sur la promo de 30. On était que 9 à vouloir passer les concours d'école de commerce. Ils avaient fait un petit programme spécial pour nous en mode.
Ah, trop cool.
Bon, bah, vous, on va vous mettre moins de maths parce que de toute façon, vous êtes nul en maths.
Ok.
Donc, pendant les cours de maths, on révisait nos cours d'histoire. Enfin, tu vois, ils s'étaient adaptés pour qu'on passe les concours de commerce, quoi. Et en fait, pendant toute ma prépa, j'étais dernière de classe. Ils m'avaient dit à la fin de la première année, ben, t'es sur la sellette. C'est soit. On te donne ta chance de deuxième année, ouais. Soit en vrai, vaut mieux que t'ailles ailleurs, pas en prépa, que tu fasses un IUT, un truc plus où c'est plus appliqué avec des stages directs et tout, parce que enfin, ça va pas aller. Et moi, je leur ai dit, têtu comme je suis, je leur ai dit non, non, je veux faire la deuxième année, et je vais vous prouver que je peux y arriver.
Ah ouais.
Je veux le faire.
Quoi. Okay.
Et, mes profs adorables étaient derrière moi, en mode ok. Go for it. Donc, toutes les semaines, j'ai un rendez-vous avec ma prof principale. Toutes les semaines, je chialais dans son bureau. C'est horrible. Bref, l'enfer.
Pourquoi j'ai voulu le faire?
Je pense que toutes les semaines, je voyais mes potes qui étaient en IUT à Lyon aussi et qui faisaient la teuf, qui avaient des week-ends d'un thé, des week-ends de machin. Enfin, bref, la vie d'école de commerce, mais avant l'école de commerce.
Tu ouais.
Donc, toi, t'es là, mais quel enfer, quel enfer. Moi, j'ai Nietzsche tous mes week-ends. J'en peux plus. Je me saoule. Et en fait, ouais, finalement, bah, tu le fais parce que
ouais.
T'as quand même aussi ta fierté, quoi. J'ai passé les concours. J'ai réussi à la plus grande surprise de tout le monde à avoir l'EM. Et franchement, c'était vraiment pas gagné.
Oui.
Vraiment pas gagné. J'étais dernière de classe, les mecs étaient en mode oui, bon, bah, à la limite, t'auras Nantes, ça va ouais. Le faire et tout. Enfin, c'est une super école. Donc, moi, si je l'ai déjà, les gars, je suis en ligue. Et ouais, je sais pas, j'ai réussi. Avoir l'EM et du coup je suis arrivée là, toujours plus généraliste comme école,
ouais.
je connais bien. Et, et là, il fallait choisir tes cours, tes machins. Je choisis marketing, donc ça, bah, j'aime bien ça.
Oui.
Je trouve ça intéressant. T'es au contact des fournisseurs, t'es au contact des du mec qui fait son produit, enfin de cet ingénieur quoi. T'es au contact du mec des achats parce que bah, tu peux pas acheter 20 000 PLV sans son accord. Je trouvais ça hyper multidisciplinaire.
C'est quoi PLV?
Les outils de vente que tu utilises, genre tous les kakémonos, les
okay.
stylos qu'on va te filer, okay. Bah, ça c'est...
PLV?
Ouais, je saurais plutôt dire
le okay. Genre des goodies
de vente. Ouais, voilà, c'est des goodies.
Produits...
Localisés de vente, je sais pas, ouais. Ceux qui sont marketés. Enfin, moi, c'est pour mon travail, tu
oui.
sais, c'est truc-là, c'est le seul mot que j'ai retenu de mon stage.
Ok. Tu l'as sorti avec tellement d'assurance que...
Parce qu'en fait, ouais, on l'utilisait tellement de fois, mais tu sais, c'est tous les acronymes ouais. que tu utilises, vraiment, tu sais même plus ce qu'ils
oui.
veut dire. Je, franchement, j'aurais envie de dire quoi.
Ok.
Mais non, ouais, et du coup, je me dis, vas-y, je me mets là-dessus. Et après, j'ai entendu parler d'IDEA.
Ouais.
Donc, c'est un programme, programme ouais. qui n'existe plus à l'EM, mais c'est très dommage parce que c'était génial. Où en gros, ils te proposaient d'avoir des cours à Centrale Lyon et des cours à l'EM, mais vraiment orienté entrepreneuriat et orienté design thinking. Mm. C'est très utilisé aujourd'hui, donc c'est un peu flou comme notion de design thinking, mais c'est une méthode de réflexion qui est hyper intéressante et qui finalement recoupe énormément la prépa BL,
mm.
parce que ben, c'est multidisciplinaire et on te donne un sujet, on te dit... réfléchis, mais en t'appuyant sur des infos historiques, ouais. des infos sociales, des infos philosophiques, des infos mathématiques.
Ouais.
Va chercher dans les matériaux ce que ça t'inspire, va chercher dans le l'environnement. Enfin, bref, on va te parler biomimétisme, mille choses que je ne sais pas du tout. C'est inspiré des faits des êtres vivants pour l'appliquer à un mécanisme, genre à une machine, ouais. quoi. Je sais pas. L'escargot, il porte sa maison sur son dos, tu vois. Ok, bah, les tiny house, c'est un peu le principe
ouais.
d'aujourd'hui, tu
okay.
vois. C'est se dire, ben, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, l'escargot, il est tout le temps là, tu
ouais.
vois.
Ah, ouais.
Tu vas t'inspirer de comment il fonctionne. Ok, sa maison, elle est hyper résistante. Bah, je vais réfléchir à comment faire moi ma maison hyper résistante, etc. etc. C'est un mode de réflexion qui est trop intéressant. Et du coup, ça, c'était 2 ans après mes débuts d'études sup. Et ça a duré 2 ans, IDEA. Tu rencontres des gens qui sont tous plus perdus les uns que les autres.
Ah ouais?
Mais ouais,
ils avaient l'air très perchés. Bon, pour ne pas du tout l'avoir fait. Ouais, les gens avaient l'air plus perchés que perdus, je trouvais.
Ouais. Perchés, grave.
Ouais.
Se reconnaîtront ceux qui ont fait idée.
Petit casse dédié.
Plus d'un qui était perché de ouf. Mais c'est ça qui était trop intéressant. Et mon nom, c'est devenu trop beau. Oui. Enfin, c'était trop sympa, tu vois. Les mecs, ils ont des spécialités ou des centres d'intérêt où t'es en mode. Ah ouais. Ok. Ça marche. Bah d'accord. Ouais, écoute. Ok, j'aurais jamais pensé
ouais.
à ça, mais trop bien. Et t'avais des parcours hyper diversifiés, donc c'était trop intéressant. T'avais des mecs qui avaient été, je sais pas, commercial pour une boîte de voitures pendant 2 ans avant de se dire, bah je reprends des études, je fais ça. T'avais des mecs qui étaient passés par une école de com, qui étaient devenus des mecs qui bossaient en festival. Pour la grosse communication de festival sur Londres, mais un peu électro-techno.
Ouais.
Toi, t'es en mode. Enfin, en tout cas, moi, je connais pas du tout ce milieu-là, ou en tout cas, je ne connaissais pas avant d'entrer à IDEA. Et comme t'as des gens qui sont comme moi, tu vois, où ben, t'as eu le parcours bien classique, t'as des parents qui t'ont dit tu feras des grandes écoles, tu feras.
Ouais.
Tu valideras ton master, ton master 2, tu feras peut-être un doctorat, et ensuite, peut-être tu feras ce qui te plaît, tu vois.
Ah, ok.
Dans l'espoir que peut-être tu trouves quelque chose qui te plaise dans les 12 ans d'études que j'ai
fait. Ok. Ah, ok.
Et du coup, ouais, c'était hyper enrichissant. Mais il a fallu faire des stages, et tous mes stages, je faisais que des stages de bouffe, en fait.
Ouais. Ah oui, donc déjà, il y a...
Ouais, déjà, j'avais la bouffe, ouais. En fait. Premier stage, c'était au Chili. J'étais dans une boîte qui faisait de l'import-export de fruits secs. Je détestais les fruits secs à l'époque. J'aimais pas du tout ça. Et du coup, vu que j'en ai bouffé pendant 6 mois, j'adore ça maintenant.
D'accord.
Mais en fait, c'était ce qui me faisait le plus marrer dans mon stage. C'était d'aller aux dégustations de fruits secs, d'aller rencontrer les producteurs qui ramassaient leurs noix, qui les faisaient sécher, nanana, et de comprendre les différentes saveurs. Ils avaient plein de produits dérivés. Donc, je me disais, mais oui, comment je fais ça? Et
ouais.
C'est trop bien, nanana. C'est trop intéressant. Ah, mais attends, tu peux les cuisiner comme ça et tout. Et ouais, et genre, enfin, c'était notre vie au Chili de manger, quoi, de cuisiner. Mmh. Et pareil, après mon stage de fin d'études, c'est la même chose, ça a été en agroalimentaire.
Ouais.
Et donc, t'as quand même déjà un premier fil directeur.
Qui
c'est conducteur.
Oui.
Fil conducteur de cuisine qui s'est dessinée, en tout cas au niveau professionnel. Où je me disais, bon, dans tous les cas, je vais travailler sur la cuisine. Je sais pas comment, mais je vais travailler sur la cuisine.
Ok, ouais, donc dès le début, t'avais quand même un peu cette fibre. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la vidéo, que ta famille avait déjà beaucoup d'affinités avec la cuisine.
Ouais.
Ce qui faisait que t'avais peut-être déjà un peu maturé ce truc de...
Ouais, je savais que je me sentais bien dans une cuisine, quoi.
Ouais.
J'avais jamais été dans une cuisine professionnelle. On m'avait toujours répété que travailler en cuisine, c'est un métier qui est hyper dur, c'est un métier qui est hyper physique, c'est difficile familialement, c'est difficile socialement, c'est des horaires dégueulasses, nanana. On te le répète à longueur de journée que les cuisiniers, c'est difficile comme métier, quoi.
Ouais.
Et puis en fait, c'est pas valorisé socialement, donc c'est pas un truc que t'envisages quand t'es plus jeune. Enfin, tu sais, quand on t'a toujours dit, tu travailleras en bureau, tu vas devenir directeur de je ne sais quelle filiale, de je ne sais quel groupe, etc. Enfin, au final, ça devient un peu, tu t'appropries un peu ce rêve-là, quoi, en disant, ouais, ça va être trop bien et tout.
Oui.
Je vais avoir une super vie, je vais avoir un super appartement à Paris, je vais avoir. Mais moi, j'ai encore, je pense, un peu cet idéal-là, tu vois, où c'est un idéal social qu'on t'a toujours inculqué.
Ouais.
Et du coup, tu l'as toujours un peu en tête de te dire, à un moment ou à un autre, je vais arriver à ce truc-là, à ce stade-là de directrice de ma petite entreprise ou responsable d'un gros département de je ne sais quel truc.
Ah oui, alors avant que le petit garçon tombe. Oui, il a refait ma journée. Oui, on était en train de parler du rêve qu'on nous inculquait.
Ouais,
parce qu'en fait, j'étais étonnée parce que, dans mon esprit, j'ai un peu ce même idéal social. En vrai, zéro surprise là-dessus. Mais c'est le fait que tu dises un taf de bureau où j'ai un peu tiqué parce que. J'avais jamais je m'étais jamais dit, on m'a appris à vouloir un travail de bureau. Et en fait, quand tu dis de bureau, ça m'envoie pas du tout du rêve.
Bah non, on dit comme ça, c'est chiant.
Ouais, oui.
Mais
dit en mode directeur marketing, ça envoie du rêve. Mais en vrai, c'est tu fais des slides et t'es dans une tour de la défense.
Je pense qu'une fois que t'as atteint le stade où t'as quelques personnes dans ton équipe, t'as plusieurs projets, puis tu peux monter tes trucs et t'as une certaine liberté, je pense que c'est hyper intéressant. Mmh. Mais il faut passer par tous les stades avant. Relou quoi, ou des stagiaires, tu fais des trucs chiants, pas intéressants, pour des boîtes qui ne bottent pas du tout parce que quoi, elles sont pas du tout les mêmes valeurs que toi. Moi c'est vraiment ça, ça me saoule quoi. C'est peut-être vouloir griller les étapes, je pense, mais ça ne fait pas rêver. Et puis non, oui, le côté directeur marketing de je sais pas quoi, ça peut être génial, je pense que ça peut être passionnant, mais il faut vraiment trouver la boîte qui colle à tes valeurs. Quoi.
Ouais.
Je sais pas, me faire profiter. Mmh. Oui, c'est peut-être le secret pour que ta boîte elle tienne, mais. Oh, la flemme!
Ouais.
La flemme, ça me fait pas du tout rêver.
Mais du coup, toi, tes parents étaient déjà dans ce. Enfin, t'ont transmis cet idéal?
Moi, mes parents, non. Ils étaient médecins, donc ils avaient pas vraiment d'idéal. Enfin, je pense que quand on leur dit marketing, etc., ça ferme la boîte de cookies. Non, quand on leur dit marketing et tout, ils savent. Enfin, ils savent. Ils savent ce que c'est sur le papier, ils voient, mais concrètement, ils savent que c'est juste un métier sécur.
Okay.
En fait, c'est plus ça, chercheuse. Ce qu'ils nous ont transmis, je pense, c'est le côté sécurité, le truc toujours assurer ses arrières.
Mm.
Ce qui est génial d'avoir ça en tête, tu vois, un peu fatiguant de temps en temps, mais génial. De, ok, tu fais ce qui te plaît, mais par contre, assure-toi d'avoir toujours un backup. Parce que la roue, elle peut vite tourner, elle peut vite te retrouver dans la merde si tu place pas bien tes plumes. Donc, tu vois, ils nous ont jamais dit, tu feras une école de commerce, non, ça me plaît pas. Ok, on va trouver autre chose, mais par contre, autre chose qui, sur le papier, t'ouvre des portes. En tout cas, on ne t'enferme aucune. Donc, on se fait école de commerce, médecine, ingénieur. Non, t'es trop nul en maths dans la famille. Mais, tu vois, tant qu'on avait un projet d'études, parce que professionnel, mais un projet d'études qui permettait d'assurer une employabilité digne de ce nom, c'était bon, on pouvait y aller. Quoi.
Okay.
Donc tu vois, je sais que mon frère avait voulu faire de la restauration à un moment, je veux entrer en école de restauration, il lui dit ok. Par contre, avant ça, on va aller, on va demander à un de nos potes qui est en restauration de te prendre pendant les vacances de Noël et de te faire bosser en cuisine pendant les vacances de Noël pour qu'ils voient vraiment la dureté du métier et tout, tu vois, la réalité du terrain.
J'avais restauration, mais genre restauration de meubles en tête.
Non.
Et donc je me suis dit...
Restauration de cuisine.
Ok.
Mais je sais pas si c'est ce qui lui a fait faire un titre, mais enfin, je crois que de ce que j'avais compris, il avait trouvé ça hyper dur, etc. Et parce que il l'avait prévenu, mais il fallait qu'il le voie de ses propres yeux, tu vois. Et moi, pareil, quand je lui ai dit, je veux faire CAP cuisine, est-ce que t'es sûre? Va voir d'abord des gens qui bossent là-dedans, parle avec d'autres personnes, c'est quand même dur, etc. Et même encore, même encore aujourd'hui, je sais qu'elle est hyper inquiète à l'idée que.
Ah, tu dis elle parce que c'est ta mère?
Ouais.
Ok.
Elle est hyper inquiète à l'idée que je travaille. Le soir, que les week-ends je suis fatiguée, que je comprends une nuit, non, je vois pas mes amis tous les soirs. Le classique verre après le boulot, je le fais pas, tu vois.
Tisane après le boulot.
Voilà, tisane avec moi-même, dégo. C'est sympa. Donc voilà, c'est plus un idéal de sécurité que de travail qu'ils nous ont donné, je pense.
Ok. Ah oui, d'où le tu travailles pendant. Enfin. T'étudies pendant 12 ans, etc. Et tu travailles, et ensuite tu fais quelque chose qui te plaît.
Voilà. Parce que même si tu fais un truc qui te plaît mais qui marche pas, ou alors que toi tu te rends compte qu'en fait c'était une passion mais pas un vrai travail, t'as toujours de quoi te rattraper, tu vois. Et aujourd'hui, je les remercie 100 fois de m'avoir forcé à faire ça, parce que moi déjà, ils m'ont pas beaucoup forcé parce que je voulais faire une école de commerce. Le CAP c'est venu plus tard, tu vois. Mais le côté, je travaille en cuisine aujourd'hui, mais j'ai le côté sécurité de me dire j'ai quand même un diplôme qui me permet de retomber sur mes pattes si jamais ça se passe mal pour X ou Y raison en cuisine.
Ok.
Je je sais que j'ai un cerveau qui me permettra de d'assurer mes arrières d'une manière ou d'une autre, et j'ai un papier, un diplôme pour ce qu'il vaut, qui me permet d'aller postuler un peu dans n'importe quelle boîte. Peut-être un taf qui me plaît pas, mais
ouais,
c'est rassurant en fait, quand tu fais un grand saut comme ça, de dire ben je fais un CAP après avoir fait un master dans une grande école, bah c'est plus rassurant de dire
Est-ce que oui, c'est ça. De dire, ok, j'ai quand même baqué. Parce que c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un peu le discours qu'ont des personnes qui se reconvertissent plus tard. Tu vois, ce truc, enfin, c'est bizarre à exprimer, je saurais pas vraiment le faire avec du sens. Mais tu vois, ce truc de avoir un plan B, avoir une sécurité. J'ai l'impression que c'est plus les gens qui se reconvertissent vers 40 ans. Tu vois, 35, 40 ans, qui ont déjà travaillé super longtemps, qui disent, ok, je sais que si je peux revenir vers tel taf, tel truc, parce qu'en fait toi t'as arrêté après, juste après ton, ouais, juste après le même, alors que Ornella, elle me disait j'ai déjà travaillé, je sais plus si c'était 6 mois, 1 an après mon diplôme, mais je sais que j'ai en plus, tu vois, cette expérience qui me permet de me baquer, et du coup je trouve ça marrant d'avoir ce discours, tu vois, de dire je me suis baquée, mais en fait c'est un, enfin ça reste un, enfin ça reste un master.
Ouais, ça reste
j'ai le même master que toi. Je me dis la même chose, mais.
Non, mais oui, de ouf, tu te dis, ouais, enfin bon, dans 10 ans, si je veux m'en convertir, si je veux revenir au marketing,
si je
veux,
je suis
pas certaine que mon diplôme, il y a 10 ans, il soit hyper valable, tu vois. Mais c'est plus un truc auquel tu te raccroches en mode ça te rassure.
Ok.
En sachant pertinemment que non, tu vas jamais revenir vers un taf de boulot après avoir fait ça, enfin un taf de bureau après avoir fait ça, ou alors pas de la manière dont on te l'a enseigné à l'école.
Ouais.
Dans tous les cas,
ça aura évolué.
Oui, ça aura évolué, t'auras évolué, et
ouais.
Tu le vois avec les gens qui ont 10 ans d'expérience, enfin, leur diplôme, oui, bah, ça leur a permis de valider 2-3 trucs et d'entrer dans une entreprise dans les 2 ans de post-diplôme.
Ouais.
Mais derrière, ils ne disent pas bonjour, Joséphine de la Compta, diplômée de l'EMU en 2022. Enfin, non, bonjour,
Joséphine
de la Compta. Oui.
Moi, c'est Jeanne, diplômée de Sciences Po.
Ouais, c'est ça, tu vois. C'est à la limite quand tu leur poses la question qu'ils vont dire ça.
Oui.
Et ils te diront, j'ai fait une école de commerce. Ils te diront pas,
J'ai
fait telle école. Ils s'en foutent. Ils sont passés au-dessus de ça, tu vois. Donc, c'est plus l'expérience qui joue derrière.
Ok. Et est-ce que t'avais, tu vois, tu parles déjà de sécuriser. Est-ce que t'avais déjà, avant de commencer l'école de commerce, envie de te lancer dans un autre genre de. En carrière, mais avec des énormes guillemets. Et tu savais déjà qu'il fallait te baquer, ou c'est vraiment venu après? Parce que tu vois, même quand tu... quand je dis te lancer, mais te lancer dans un CAP, enfin un CAP, un truc qui n'a rien à voir avec
avec
le chemin classique.
Avec le chemin classique.
Ouais.
J'ai toujours eu en tête le côté sécurise tes choix.
Ok.
Ça c'est sûr, mais tu vois, même encore aujourd'hui, quand on me dit ah ouais c'est génial, t'as fait ce choix là, c'est incroyable et tout, ou enfin t'es une grande malade, en fait moi dans ma tête je n'ai pas encore fait le choix, alors que si, en fait ça fait quand même déjà 2 ans que je suis lancée, que j'ai fait mon CAP, j'ai signé un CDI dans un restaurant.
Ouais.
Pour moi, j'ai pas encore fait le choix de rester en restauration, de plus être en école de commerce, dans ma tête c'est en mode ouais, mais enfin, j'ai rien signé, les gars, genre un CDI en restaurant. Okay.
Oui.
Genre dans ma tête, c'est un peu.
Ok.
Genre moitié-moitié, tu vois, c'est. Oui, j'ai signé, mais au final, comme je sais pas trop ce que je vais faire après, enfin, je le sais sans le savoir, enfin, tu vois, dans ma tête, c'est en mode. Je peux ressauter à tout moment.
Ok.
Je sais pas, que ce soit vers un CAP, une maison, ou.
Ouais, oui, ou devenir guide d'haute montagne.
Oui.
Je m'en doutais.
J'ai pas l'impression d'avoir fait le. J'ai l'impression d'être encore en sortie d'école, quoi.
Ok.
C'est trop bizarre.
Ah, c'est marrant que tu dis ça. Parce que pour moi, j'avais l'impression. tout le clan BDA à qui j'ai parlé, t'es un peu leur leur déesse de la reconversion. je sais aussi, je t'avais dit genre j'appelle Blandine, elle va pouvoir me donner des infos, et donc pour tout le monde t'es déjà un peu la personne qui a fait le grand saut, qui s'est lancée, qui mais en fait c'est que t'as peut-être ce truc de dire bah après ça t'aide peut-être à pas à tenir mais à avancer sans trop te poser de questions, de dire j'ai pas encore fait le choix.
Ouais, je pense que c'est ça surtout parce que bah ouais, c'est flippant en fait au jour le jour de dire ouais bah là j'y suis hein, puis j'ai mis les deux pieds dedans en plus, tu vois.
Ouais.
Il n'y a plus trop de choix, faut avancer, donc ouais, je pense que t'as raison, d'une certaine manière ça me permet de tenir aussi, de me dire non, je suis pas totalement en train de m'éloigner de ce que mes potes font en fait, c'est surtout ça.
Ah ouais.
Parce que bah ouais, tu vois tous tes copains qui commencent à devenir des seniors dans des entreprises, oui, signer des super CDI avec des salaires, ouais, et t'es là, d'accord. Ah oui. Bah, on fera pas de vacances ensemble, hein. Je te l'annonce.
Mais oui, si, mais tu m'invites.
Ouais, je vais dormir dans la tente, dans mon jardin, tu vois. Mais ouais, tu vois tes copains qui sont en école, qui avancent sur des chemins qui sont beaucoup plus classiques, et pour autant ben toi t'as pas du tout envie de t'éloigner d'eux, puis t'as pas l'impression de t'éloigner d'eux, mais en fait quand tu les entends parler de leur taf et quand tu t'entends parler de ton taf, t'es en mode ouais bon ok, on n'est pas sur les mêmes questionnements au jour le jour, tu vois. Moi c'est est-ce que le service de ce soir va bien se passer, est-ce que on va arriver à mettre en place cette entrée ou ce plat cette semaine et tout, eux c'est putain, faut que je rende un PDF, enfin ou un projet pour tel client la semaine prochaine. Donc eux, c'est des deadlines à 3 semaines, 4 semaines, 6 mois.
Ah,
et toi, ouais, t'es sur du vraiment au jour le jour, et t'as pas du tout ce côté relation genre mail, etc. C'est nous, nos relations, c'est ben, ton équipe au jour le jour. Genre, bah, toi, t'es vénère ce jour-là, ben ouais, mais tu bosses avec ton équipe, t'as pas le choix en fait.
Ouais.
Faut que les assiettes elles sortent. Enfin, je trouve qu'on n'a pas les mêmes priorités. Du coup, ça se ressent quand tu parles avec eux au jour le jour. Je sais pas trop comment on en arrive à dire ça, mais ouais, c'est si, c'est du coup, c'est rassurant de se dire, ben, j'ai pas encore fait ce choix-là.
Ok. Complètement
aller dans ce milieu-là, en fait.
Parce que t'as
ouais. En fait, j'ai pas envie d'aller complètement dans ce milieu-là parce qu'il y a plein de trucs qui sont terrifiants en fait dans la restauration.
Ouais. Et est-ce que ça te Enfin, est-ce que ça te fait peur de dire que justement vous allez dans des directions différentes ?
Bah de moins en moins.
Ok.
Parce que je sais de plus en plus en fait ce que je veux dans mon métier.
Ok.
De cuisinier. Je sais que je veux ben, des horaires où ouais, je ne travaille pas les samedis et dimanches.
Ok.
Je sais que je veux des horaires, ben oui, je garde quand même de l'énergie pour le week-end aller faire la fête avec les copains, etc. Et que je vois en fait que depuis 2 ans, ben, je ne me suis pas forcément éloignée de mes potes. En fait, j'ai réussi à toujours tenir le truc. Après, t'as des semaines où ben, t'es vraiment sur le fil et tu as l'impression que tu ne vas plus jamais voir. Et en fait, après, tes potes qui sont au conseil, etc., pareil, eux aussi, ils ont des semaines où ben, j'ai l'impression qu'ils ne vont plus jamais voir. Parce que
oui.
Il faut juste arriver à se dénombriliser, hein, prendre du recul et se dire, ok, c'est une phase, c'est pas grave.
Ok, ah, c'est marrant que t'en parles comme ça. Et est-ce que sur le timing, parce que tu vois là, tu disais, tes potes ont des deadlines à 3 semaines, et toi c'est plus ce soir, comment ça va se passer, etc. Est-ce que t'as l'impression aussi que dans leur projection de vie, enfin dans vos projections de vie respectives, vous avez aussi un peu ce décalage de timing. Enfin, je pose la question parce que moi, en ce moment, du moins, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, ne serait-ce que planifier ma semaine, c'est déjà un énorme challenge. Je me dis, putain, je sais pas, tu vois, quand je vais caler un enregistrement, un truc, un atelier, blablabla, et qu'à côté, mes potes réfléchissent à, bah, dans 2 ans, je vais acheter. Là, je me dis, waouh, on est, ok. Je me dis, ok, t'es adulte, moi pas.
Je veux pas devenir adulte d'ailleurs.
Mais d'où ma question, est-ce que tu le sens aussi quand vous en parlez, ou les aspirations restent.
Ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu es, ouais. T'as vraiment des gens, oui, quand tu leur parles, tu sens que vous avez pas les mêmes projets. Il y a des potes qui se rappellent.
C'est ça.
Fin de discussion. Actuellement, je me sens plus proche d'un moineau que de mes copains en fait. Mais non, ouais, ça va vraiment dépendre des amis. Parce que t'as aussi les potes qui sont en métier de bureau, qui aiment ça, mais qui, quand ils te voient faire un truc que toi t'adores, te disent putain, c'est quand même le feu d'avoir trouvé ce que toi tu veux faire, tu vois.
Ouais.
Ben, tu te sens éloigné, mais sans être éloigné, parce que tu dis en fait, tout le monde à un moment ou à un autre va se poser cette question-là.
Ok.
Et bon, bah, moi je me la pose peut-être pour les 4 prochaines années à pas trop savoir ce que je fous et ouais. pas trop savoir où je vais et pas trop comprendre ce que je suis en train de construire. Mais peut-être que j'espère, si vous plaît, que dans 4 ans je saurai un peu mieux où je vais.
Ouais, c'est vraiment étonnant que tu dises. Je m'attendais pas du tout à ce que tu me dises que tu savais pas où t'allais.
Non, et qu'est-ce que ouais. Enfin, tu vois, j'ai démissionné il y a un mois. Là, je commence dans un mois dans un nouveau resto. Mais est-ce que ce resto va me plaire? Est-ce que je vais pas me rendre compte qu'en fait physiquement ça va pas du tout m'épuiser? Est-ce que l'équipe va me plaire? Bon, ça j'ai pas trop de doutes, mais. Enfin, t'as tellement de questions qui se posent, puis ouais, le fait de démissionner, c'est pas anodin, parce que tu te dis, ok, moi, on m'a jamais, que ce soit dans un taf de bureau ou maintenant, on m'a jamais parlé de démission, enfin, tu démissionnes pas vraiment, tu finis tes projets et ensuite tu démissionnes, tu te projettes jamais sur le côté un peu dark de la, de la fin d'un poste, en fait, quand t'es...
Oui, c'est vrai.
Quand t'es dans les écoles, etc., on te dit toujours, oui, bah, tu vas devenir... manager de tel truc pendant 3 ans, puis dans 3 ans, bah, tu vas partir et tu vas faire autre chose. Mais on te dit que tu vas partir sur un petit pont, genre, ouais, voilà, et tu vas retrouver direct après.
J'avoue.
Personne ne retrouve direct après, ou alors quand tu retrouves direct après, c'est que t'as anticipé depuis 6 mois qu'en fait ton taf te saoulait et que tu voulais partir et que tu voulais changer de boîte, etc., etc. Et
tu as des périodes de déguide
que personne ne sait vraiment gérer, quoi, ouais. Moi, je suis en train de l'avoir, ce défi, putain, en mode, ok, il y a des mois, tu vas rien faire, c'est pas grave, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même. Et là, je fais rien pour moi, donc c'est trop cool, c'est génial, c'est la belle vie parce qu'il fait beau, presque, et les copains sont un peu tous en vacances, mais, mais en fait, au jour le jour, ils bossent quand même un peu, et toi, t'es là, moi, j'ai tout lâché il y a un an et demi pour faire une reconversion, pour en fait démissionner 2 ans après et changer de resto, mais est-ce que ça... Enfin, faire le saut de la reconversion, ça te donne pas toutes les réponses que t'attends de ta vie. Et non, c'est pas parce que tu choisis de travailler dans ta passion que derrière, tous les jours, tu vas être persuadé que ouais, je suis au bon endroit.
Ouais,
ouais, c'est nickel. On a tous des périodes de doute et d'un moment. Ouais.
Ouais, j'ai regardé Sweet Tooth. Ouais, ouais, j'ai passé un jour dans mon lit.
Ouais, j'étais sous ma couette et alors... Trop bien.
Ah mais ouais. En ça c'est super intéressant que tu le dises, parce que c'est vrai que j'ai l'impression dans ce que l'école nous fait passer comme imaginaire de taf, que soit ton travail ce sera ta passion, soit que tu trouveras ta passion plus tard dans ton travail, soit tu auras de la grosse moula et voilà, ça ira. Mais j'ai l'impression qu'on idéalise de ouf aussi la reconversion. Et de se dire, si je suis pas bien dans ce que je fais, forcément, si je vais soit vers ma passion ou vers un autre truc, ça va être ouf. D'autant plus vers l'entrepreneuriat.
Moi, j'ai vraiment cette impression-là, ouais, où même les gens s'attendent à ce que tu sois hyper bien d'un coup, rayonnant, incroyable, parce que tu as décidé de faire ça. Donc c'est, je suis ravie d'avoir fait cela et rien au monde ne changerait, tu vois.
Ouais.
Mais il faut pas l'idéaliser non plus, parce que t'as des dilemmes financiers qui viennent avec, t'as des dilemmes sociaux aussi, parce que ta passion, j'aime pas trop ce mot, enfin j'adore ce que je fais et j'adore la bouffe, mais je sais pas, c'est une passion, je trouve ça très fort comme mot, t'as forcément des doutes qui vont avec, et puis il y a des jours où t'aimes le faire, il y a d'autres jours où si t'es fan de peinture, il y a des jours où t'as pas envie de peindre, tu vois. Donc quand tu décides de vraiment faire ça tous les jours et que ça en devient ton propre gagne-pain, il y a un moment où tu te dis putain, faut que ce soit du solide, quoi. Et le jour où t'as un mini doute sur en fait j'étais persuadée que j'adorais ça, mais en fait non, faut être sûr que ça ne déconstruise pas tout le monde, tu vois. En mode, ok, en fait j'aime pas du tout cuisiner, mais en fait c'est ce que j'aime, quoi.
Ouais.
Et du coup, il y a beaucoup de points sur la reconversion où c'est génial. Ouais. Ça pose aussi beaucoup de doutes et ça te met face à énormément de choses que tu avais un peu enfouies dans toutes tes années d'école, tu vois, des questions, des envies, des trucs où,
ouais,
tu te redécouvres parce que ben, tu choisis une voie que personne n'a choisie, ouais, en tout cas dans ton entourage,
oui,
pour moi. Et du coup, les conseils d'orientation, etc., tu les as que par toi-même, en fait. Ou alors par d'autres gens, mais qui n'ont pas du tout fait le même parcours que toi, donc qui n'ont pas les mêmes doutes, les mêmes envies, les mêmes questions. Et ouais, tu... Enfin, moi, je sais que si j'avais continué dans la voie marketing, etc., bah, t'as toujours un backup parce que t'as toujours tes potes en mode « Ouais, du coup, qu'est-ce que t'en penses si je fais ça ? Si ce projet-là, je l'accepte dans ce sens-là ? Si je valide ce truc-là comme ça avec le boss, tu penses que ça le fait et tout ?»
Oui, ouais.
Et là, dans un métier passion, si on veut, entre guillemets, ben, si je vais poser une question à mes frères et sœurs en mode « Je pense que si j'en parle à ma boss comme ça, ils vont dire non, non, faut écrire un mail, un machin,
ah, faut oui,
les formes. » Alors qu'en vrai, non, parce oui, que si tu sais pas du tout les mêmes relations, oui, c'est pas du tout les mêmes... Et tu vas avoir un doute sur ton orientation et vont dire, ben... Enfin, ils vont pas forcément pouvoir t'aider
ouais,
comme toi, tu l'attends. Ce sera oui, un backup psychologique, mais... Ouais, ça va être vraiment à toi de le dire, enfin, d'être sûr de ce que tu veux.
Et ok.
C'est hyper dur. Moi, j'ai
ah,
c'est un ouais, truc hyper dur à avoir.
Oui,
et qui, en même temps, ouais, est hyper excitant parce que c'est...
C'est toi.
C'est toi qui fais vraiment tes choix et tu sais que c'est toi et pas ton cadrage social qui fait ouais, que tu fais ces choix-là. En tout cas, okay, c'est une sensation.
Ouais.
Je sais pas si au final, ouais, tu fais peut-être des choix en fonction du cadrage social.
Ouais, du coup, c'est vraiment bah, toi et ta confiance en toi, enfin ta confiance en toi, ta connaissance de toi qui joue.
Ouais.
Et comment t'as fait pour avoir, enfin suffisamment, pour avoir confiance en toi au moment de ton changement? Enfin, tu vois, le grand saut, qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Parce que tu m'as raconté ton histoire de « j'avais envie de découvrir ce métier », mais il y a un pas entre te dire « j'ai plus envie de présenter mes Excel, de passer la toque, de t'inscrire ». Et en toi, qu'est-ce que t'as senti? Comment, même encore aujourd'hui, tu vois, comment tu construis un peu ce rapport avec toi? Je vais te laisser.
Ah, écoute... Non, en fait, j'ai pas du tout confiance en moi, je pense. Enfin, même ma chef me l'a redit encore et encore. Elle m'a dit, faut que tu prennes confiance en toi, faut que tu apprennes ouais, à te faire confiance. Moi, je dis oui, bon, bah, ça, c'était aussi marqué sur tous mes bulletins scolaires. On dit, on doit prendre confiance. Bah, toujours pas, les gars, hein, 25 ans d'études, j'y arrive toujours pas. Et, mais c'est un feeling, en fait, du coup. C'est pas une confiance en soi, mais c'est un feeling qui te prend vraiment au trip, tu vois, genre... Il faudra le couper au montage, ça, c'est bon. Mais ouais, c'est vraiment un feeling où tu te dis, là, il y a un truc qui vibre, qui est vraiment enfoui, mais qui vibre en moi, okay, tu vois, qui... Ça me parle, ça me titille, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Je saurais pas du tout te l'expliquer parce que j'essaye encore de comprendre ce que c'est.
Ok.
Mais c'est un truc où tu te dis, il y a quelque chose à faire là-dessus, tu vois. C'est comme quand, je sais pas, tu dois monter un projet et tu trouves une idée et tu te dis, les gars, c'est celle-là l'idée.
Enfin, ouais, oui.
Faut qu'on y aille, faut qu'on la...
Ouais, ouais.
Il y a un fil à tirer, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. On est là, on creuse. Bah là, c'est la même chose. Je me dis, ben, ça va être long comme fil parce qu'il y a quand même 6 mois de CAP, ensuite des stages, des machins, puis il va falloir faire quand même 4-5 ans dans le métier pour être vraiment sûr que c'est ce fil-là que tu veux tirer.
Ok.
Mais j'ai quand même envie de le tirer. C'est plus une corde, voire un pipeline, le bordel, là. Mais ouais, j'ai senti qu'il fallait que j'aille creuser ce truc-là
okay,
pour vraiment en avoir le cœur net et me dire si jamais je retourne en marketing derrière, donc, tu vois, j'ai toujours pas fait mon choix.
Ouais.
Mais j'irai, mais sans avoir aucun regret et en sachant exactement pourquoi.
Ouais.
Est-ce que je suis pas restée dans cette voie-là
okay,
ou pourquoi est-ce que j'ai décidé de réadapter et de le modéliser à ma
ah,
façon.
Ah, ok.
Donc ouais, je me suis lancée en disant qu'il fallait que
j'y aille. Ok.
Donc là, je suis encore en train de creuser. Hein,
ouais, ouais.
Je n'ai pas encore vu oui, le point, mais je sais qu'il est là, tu vois. Enfin, maintenant,
okay,
dans ce mois-là où j'ai rien fait de professionnel, au final, où j'ai rien rendu sur Instagram, sur un portfolio quelconque
ouais,
de cuisine, sinon, des recettes, des ouais, machins, bah, je sais que ça infuse quand même, qu'il
ouais,
y a quand même quelque chose qui réfléchit, il y a un truc qui
ouais,
se passe. Et il se révélera plus tard, pas tout de suite, ouais. Mais il se révélera. Mais il faut juste de la patience.
Ouais. Bah après, c'est un dans le processus créatif, la pause, c'est quand même ultra important pour que tu aies le temps de d'infuser, de processer un peu tout ce que tu as engrangé au fur et à mesure de tes expériences.
Mais c'est dur, je trouve. Enfin, je pense que toi, tu le vis aussi, tu vois, quand tu es en mode... je sais que je dois interviewer les gens, je sais que je dois faire cet atelier, mais je sais pas encore trop comment. Mais en même temps, c'est une opportunité, donc faut que je le tourne de façon à ce que finalement, ce soit pertinent.
Ouais, ouais. Moi, c'est des... j'ai aussi des fulgurances, je me dis. C'est ça. Et c'est ça. Et du coup, quand t'as, tu vois, tu parlais de tes périodes de doute, comment tu fais quand tu doutes pour...
Je fais des
quatre. J'avais oublié. C'est ça. Non, j'allais dire pour pas te remettre toi forcément en question ou trop... Enfin, je sais pas comment le... Parce que tu vois, quand t'es dans un taf de bureau, t'as pas... Enfin, quand on dit... tiens, t'as fait une erreur ou tiens, il y a un truc qui va pas, tu remets plus en question ta méthodologie, ta place dans le... Ça va, je pense. C'est ta place dans l'entreprise, mais je pense pas que t'as une introspection ultra profonde. Tu vois, moi, des fois, quand je fais des trucs... Je dis ah peut-être que ça c'est pas le bon chemin à prendre. Ouais. Je pense que je me remets en question de façon peut-être trop conséquente. De mais d'ailleurs pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Là.
Et ouais t'as arrêté quoi.
Pas encore, mais juste pourquoi tu vois, c'est un pourquoi énorme et du coup je me demande comment tu vois. J'ai pas ce gut feeling dont tu parles, mais du coup, comment tu... Est-ce que ça revient quand tu doutes?
Quand je doute et que je suis au travail, ça va être parce qu'on m'a fait une critique, mais parce que je prends les critiques hyper à cœur aussi, tu vois. Enfin, je pense que le mec me dit, non, là, ton résultat, il était pas hyper crémeux. Moi, je vais entendre, t'es une grosse sous-merde. Tu vois.
Ah, ok, d'accord. Tu ne sais pas cuisiner.
Okay, bon, tu n'as rien à faire en cuisine, ça n'est pas ta place, nanana. Dans mes bons jours où je vais être en mode je suis une battante, j'y vais, je tape dedans et vas-y, mets-moi en bon bref, tu m'as compris. Envoie-moi tout ce que tu veux comme critique. J'encaisse. Dans ces jours-là, je me dis ok, vas-y, c'est bon, t'engranges et voilà.
Ouais.
Et dans les moments où je doute vraiment, je me mets à pleurer déjà de une, je suis une grosse chialeuse.
Ok. Je ne savais pas.
Ça me défoule en fait. Ça me fait du bien et ça met mal à l'aise les autres, mais en fait je commence à m'en faire.
Okay.
Je suis là, c'est dans mes gènes, les gars. Je sais pas, je suis stressée, je pleure, je suis en colère, je pleure.
Je fais des crêpes, ok.
Je fais des crêpes, ok. Du coup, elles sont salées. Mais non, mais tu vois, dans ces cas-là, je vais m'accrocher à ma famille, je pense.
Ok.
À ma famille, mes amis, à mes proches, quoi.
Ouais.
Et tout, je vais vraiment retourner vers ceux qui ont le recul nécessaire pour me dire arrête de te
prendre la tête,
souffle un coup, dors, va manger une pâtisserie, va faire du vélo, pars un peu en montagne, détends-toi et ça va aller quoi.
Ok.
Quand vraiment j'ai des doutes, c'est mieux quoi. C'est vraiment sentir que j'ai mon entourage et que je m'appuie sur
eux. Ok.
Même s'il se passe quelque chose de grave, entre guillemets, enfin, même grave qui se passe dans tous les cas, c'est qu'un travail, tu vois, mais je sais qu'ils sont là.
Ok. Ah, trop intéressant. Et même, c'est marrant parce que du coup, tu parles. J'ai l'impression que tu fais bien la différence entre mon travail quand t'es au travail et la cuisine quand t'es hors du travail.
Ah ouais, ça n'a rien à voir. Mais je pense que pour. En tout cas, les cuisiniers que je côtoie, je pense que c'est un peu le cas, c'est que t'as la cuisine du travail et t'as la cuisine pour tes amis, ta famille, quand t'es chez toi et que t'as envie de faire un bon petit plat pour tes potes, mais comme n'importe qui aura envie de cuisiner un petit truc sympa pour sa grand-mère, se mettre à cuisiner, tu vois. Ça n'a rien à voir, c'est juste que du coup t'auras des gestes aussi, t'auras des machins, et que c'est pas parce que tu cuisines chez toi que tu es en train de penser au travail, parce qu'en fait ce que tu fais au travail ça n'a rien à voir, c'est des façons de travailler qui sont pas du tout pareilles que chez toi.
Ouais.
C'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus normé hygiéniquement parlant. Enfin ouais, moi j'ai pas, quand je travaille, quand je cuisine chez moi, j'ai pas l'impression d'être au travail. Enfin, c'est pas...
Ouais.
Alors que par contre quand je me mets en mode cuisine au boulot et que j'enfile ma veste de cuisinier, etc., je me mets en posture avec le tablier, et que t'as une pression parce que tu sais qu'à midi les premiers clients arrivent et qu'il faut que tu sois prêt, c'est pas du tout la mentalité dans laquelle t'es pour travailler. Donc Et je trouve ça hyper important de séparer boulot et perso, en fait. Enfin,
ouais.
Dans tous les cas, c'est aussi un truc que je sais maintenant après 2 ans en cuisine, c'est moi j'aurai mes week-ends et j'aurai mon boulot, ma vie perso.
Ouais.
Il y a un moment, il va falloir arriver à trouver un juste milieu pour pas que mon boulot empiète sur les fêtes de famille, sur le week-end entre potes. Enfin, c'est des sacrifices que je veux pas faire. Tu devrais pas aller avoir à les faire.
Non, mais c'est trop cool, parce que c'est vrai que, encore une fois, tu vois, dans l'imaginaire que j'ai de l'école, quand tu penses au métier passion, ou je sais pas pourquoi j'ai vraiment que l'entrepreneuriat en tête, je pense que c'est aussi représentatif de ce qu'on nous présente comme métier passion, mais on a vraiment cette image du mec qui s'enferme chez lui, et soit qui code pendant des jours, qui sort pas, mais qui taffe les week-ends, qui voit plus personne, et qui répond plus au téléphone, mais...
Ouais, qui est dans son monde.
C'est ça. Alors qu'en fait, tu te nourris aussi de l'extérieur et t'as besoin de couper. Et c'est trop important. Et c'est bien que tu le rappelles que c'est quand même important aussi d'avoir ta passion, enfin ta passion, ce que t'aimes faire, mais que ça prenne pas non plus toute ta vie parce que t'as.
Après, c'est une vision comme une autre. Hein, tu vois, là, maintenant qu'on en parle, je me dis, en fait, il y a d'autres gens qui ont un avis totalement différent dessus.
Ouais.
Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de le vivre déjà. Et c'est comme ça que. C'est comme ça que j'envisage mon métier passion. Mmh. Quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi que n'importe quelle école, et puis même l'imaginaire collectif en général, nous a toujours enseigné ça de le mec qui fait ce qu'il aime, il fait que ce qu'il aime en fait.
Oui, c'est ça.
Mais du coup, ça occulte tout le côté de s'il fait ce qu'il aime, il y a un moment déjà de une, il va faire de l'administratif, de deux, il y a un moment, il va aussi faire ses fiches d'impôt comme tout le monde, ça va le faire chier comme tout le monde, tu vois.
C'est ça.
Il y a un moment, il va falloir qu'il fasse du démarchage, il y a un moment, enfin. T'as toute une partie où non, il peut pas faire que ce qu'il aime déjà, et puis tu peux pas, enfin c'est ce que tu disais, il faut faire autre chose si tu veux pouvoir évoluer et rester à la page avec ce que tu fais, quoi.
Non, mais du coup je trouve que c'est assez malsain comme façon de concevoir les choses.
Ouais. Bah, parce que c'est un tout, quoi, c'est soit tout blanc, soit tout noir.
Mm.
C'est vraiment. Si tu décides de pas choisir la voie classique et que tu dis et que tu affirmes ok, moi je vais partir dans ce truc là, même si vous êtes pas trop d'accord, vous êtes inquiet, vous êtes pas en phase avec ce que je veux faire, etc. Et en gros, si tu vas dans cette voie là et que tu affirmes tes choix face à tous, t'as l'impression de faut pas louper. Et par contre, il va falloir y aller à fond et il va falloir jamais douter et il va falloir jamais te poser la question de est-ce que j'ai fait le bon choix.
Oui.
C'est pas possible. Enfin,
oui, c'est débile.
C'est pas envisageable, mais c'est vrai que dans l'imaginaire, le mec qui se lance dedans, il a jamais de doute en fait.
C'est ça.
Une fois qu'il a pris sa décision, en fait, il est dedans et il n'aura plus jamais à se poser la question de est-ce que c'est ce qu'il aime ou pas. Mais je vois pas pourquoi le mec en marketing, depuis 2 ans, il se pose la question et il a le droit de se poser la question de est-ce que ce job-là, dans cette entreprise-là, me plaît. Et pourquoi le mec qui fait son métier passion, au bout de 2 ans, il n'a pas le droit de se dire c'est trop cool, j'adore, mais en fait, j'ai plus envie de faire dans cette de cette manière-là, de cette façon-là, j'ai envie de changer de prisme. Enfin, les études, elles montrent que dans tous les cas, on va changer de métier 10 fois en 40 ans de vie professionnelle. Heureusement, Dieu merci, j'ai hâte de voir les métiers que je vais faire, tu vois.
Oui.
Mais j'ai pas du tout envie de rester toute ma vie sur la cuisine en tant que... Enfin, la cuisine, si, mais pas... derrière un fourneau à faire tout le temps la même chose.
Oui. Mais c'est vrai que finalement on a. Enfin, j'avais jamais réfléchi à ça. Je crois que je me prends des petits déclics.
Ravi.
Non, mais ouais, que sur les métiers passion, j'avais aussi cette image du mec qui signe pour devenir entrepreneur et soit il arrête, soit pour reprendre une nouvelle entreprise, mais ça reste un peu sa passion. Soit il revend son truc, donc là c'est réussite sociale, mais t'as à aucun moment ce truc de doute ou de ou alors quand tu racontes tes échecs, tes doutes, c'est des trucs très répétés et très brandés finalement.
Ouais.
Et on a conscience qu'on va faire plusieurs tafs, mais j'ai l'impression que les gens qui en ont conscience, c'est plus ceux qui travaillent dans un métier qui ne leur plaît pas et qui se disent ok, de toute façon j'aurai 13 métiers dans ma vie, j'aurai d'autres chances. Alors que le mec qui se lance dans le truc passion, en école, on dit juste, c'est pour la vie.
C'est que des arcs-en-ciel et des papillons, les gars, c'est génial. Ouais, un peu. Mais moi, c'est, je enfin moi la première, j'ai le réflexe de si la cuisine ça marche pas autant que ce que je l'espère, je reviens automatiquement vers du marketing, tu vois.
Ok.
Et là en fait la phase de doute que j'ai passé là, le mois où j'étais en mode je fais pas grand chose, en même temps j'adore la cuisine mais putain c'est fatigant et tout,
ouais.
Enfin physiquement ça demande beaucoup, etc. En fait je me suis rendu compte que tout ce mois-ci j'ai cherché mes 1000 solutions pour allier la cuisine avec mes exigences, mon tableau d'exigences professionnelles, en mode moi je sais que je veux ça, voilà,
okay.
Comment est-ce que je vais arriver à trouver un moyen d'associer ce que je kiffe faire avec tous ces critères là, tu vois. C'est ces moments où tu arrives à trouver un peu un hybride, un métier hybride, et c'est là où tu peux trouver des niches en fait professionnelles où tu peux t'insérer avec ce que tu aimes faire et tes exigences, tes attentes sociales et ton cadre social qui t'a été donné au départ, quoi.
Mais attends, du coup j'ai une question, parce que de ce que tu me dis j'ai l'impression qu'à chaque fois tu t'es orientée vers des domaines ou des métiers que tu connaissais déjà. Tu vois, la cuisine, tu le cultivais quand t'étais plus jeune. Le marketing, c'est avec l'école. Et là, tu dis, si je reviens vers un truc, tu reviens vers quelque chose que tu connaîtrais.
Si je reviens vers un truc, non, serait... Là, tu vois, dans ma tête, c'est 1000 possibilités, mais tu peux être agent de chef. En gros, tu gères toute ta communication, la visibilité, la presse des chefs.
Ouais. D'accord.
Qui a le vent en poupe en ce moment. Mm. Tu peux monter ton resto, tu peux inventer un concept gastronomique qui n'existe pas encore, même si je pense que ça a été déjà bien épuisé, mais il y a 1000 autres trucs à faire. Enfin, non, c'est des métiers que je connais pas. En tout cas, je connais personne qui les fait personnellement.
Okay.
Je suis débrouillée pour aller contacter quelques personnes sur LinkedIn quand même, mais là, si je me réoriente, ce sera vers un métier que je connais. Enfin, tu vois, même le marketing, je connais pas vraiment.
Ouais.
Au final, j'ai fait 6 mois de stage en marketing événementiel, mais c'est tout. Enfin, tu vois, par rapport à une Néla, par exemple, qui a fait quand même 2 ans, 1 an en entreprise.
Ouais.
Moi, à côté, je suis un bébé. Hein. Je sais rien faire en marketing.
Ok. Ah oui, non, j'avais vraiment l'image quand tu disais tu vas revenir au marketing ou même je me niche. Je pensais à tu reviens au marketing de manière classique. Mais du coup, c'était ça. Je me disais, mais comment tu redécouvres et tu te réinventes au fur et à mesure? Mais tu as répondu à ma question.
Je pourrais pas. Je pense qu'au niveau des valeurs et tout, j'arriverai jamais à retourner en entreprise.
Ouais.
Tu vois, comme toi, quoi. La grande prod, les grandes entreprises. Vraiment, je pense qu'il y a des métiers au sein de ces entreprises qui sont passionnants, qui sont géniaux. Et j'adorerais être de ces personnes qui font ces métiers-là, tu vois.
Ouais.
Il y a certaines grandes entreprises qui ont des petites équipes qui ont des super valeurs et qui essayent vraiment de diffuser ça au plus grand nombre. Ça, mais moi je pense que j'y arriverai. Après, ne jamais dire jamais, hein, mais
c'est fini. Non, mais ça veut dire que tu t'es quand même déjà trouvé sur plein de points.
Ouais, mine de rien, oui, ça t'apprend quand même énormément de faire le gap école de commerce CAP. Oui, t'apprends quand même beaucoup. Hein.
Oui.
Si tu fais 6 mois et que tu repars après en marketing, t'as déjà eu des balls de le faire, quoi.
Oui, parce que tu dis, j'ai pas forcément confiance en moi, mais en fait, t'as fait tellement de trucs que je pense que... Si, enfin, même là, quand on parle, on sent que t'es bien aligné avec ce que t'as choisi.
Ouais. Oui, je suis alignée, mais... En fait, je pense que moi, je confonds la confiance en soi et le fait d'avoir des doutes.
Ah, ok, d'accord.
C'est parce que je suis alignée que j'ai pas de doutes, et du coup, ça fait que ça ébranle aussi ta confiance et ton assurance, quoi, de dire...
Ok.
Ouais, je suis hyper chaud, les gars, je suis...
Ouais.
3 étoiles directes et tout. Alors, tu fais 1 mois où t'es crevé, où t'en as marre, machin, t'as envie de juste envoyer valser tout, tu te dis, vas-y, laisse tomber, je veux même pas essayer de pousser.
Ouais. Mais c'est trop drôle que tu te dises, je vais commencer en étant un baby et direct, tu vois, je suis passée aux 3 étoiles. Mais encore une fois, c'est ça.
On nous a jamais expliqué les étapes intermédiaires, je trouve.
Ouais.
C'est, soit tu fais un graduate programme en sortant d'école.
Tu viens PDG.
Tu viens PDG direct en sortant du graduate programme. Non, les gars, genre, déjà, graduate programme, faut quand même les faire, les 3-4 ans de graduate. faut te les taper, les sessions de commercial dans je ne sais où en France, tout seul, alors que tous tes potes sont à Paris, etc. Enfin, c'est chaud, hein, et franchement, ceux qui s'y tiennent, je les admire, je me dis, mais putain, j'aurais tellement tout lâché avant.
Oui, c'est...
ouais, tu vois.
J'ai déjà regardé Feu du temps où je me disais, allez, je peux le faire. Et vraiment, je me suis vraiment arrêtée au dossier d'inscription. Ouais. C'était déjà trop.
Tu sens que c'est pas pour toi. Mais je trouve ça génial ceux qui arrivent à le faire et derrière, ils ont l'air de s'éclater, tu vois. Une fois qu'ils remontent sur Paris ou qu'ils rentrent dans la ville de leur choix, c'est pas non plus ce city, quoi. Mais ils ont l'air de kiffer. Hein. Et moi, je sais juste que c'était pas.
Ouais,
c'était vraiment pas mon objectif, mais du coup, oui, en fait, ça te remet les pieds sur terre de. Ok, en fait, même le PDG de je ne sais quelle boîte, ben, il n'a pas commencé par être PDG, en fait, il a commencé par être commis de cuisine.
Oui, bah, c'est normal.
Tu as des mecs de 21 ans, 22 ans qui viennent t'expliquer comment, comment ça se passe, quoi. Et toi, t'es là.
Ouais.
Ok, je prends sur moi, ça va bien se passer, tu vois. Et en fait, à une plus petite échelle, c'est ce qui se passe en cuisine, mais en fait tu le dis quand t'es dans le circuit classique de école de commerce, commercial, grand compte, équipe marketing, et ensuite tu deviens responsable. Enfin, après, c'est la voie classique. Tu commences par les petites tâches de merde, les photocopies.
Ouais, mais c'est. En soi, c'est normal, tu peux pas être expert dès le début.
Bah ouais,
mais c'est vrai que c'est un truc qu'on nous apprend pas du tout. Non.
La patience de l'apprentissage, on ne l'apprend plus du tout en école.
Je pense même, dans l'éducation en général, on nous dit ça va. Surtout quand t'es bon élève, t'as ce truc de t'inquiète, ça va venir à toi puisque toi tu vas aller aux choses. Du coup, moi j'ai l'impression que plein de gens qui se posent des questions, soit ne commencent pas forcément à se chercher autre en se disant mais de toute façon, quand ça va venir, si ça doit se faire, ça va venir. Alors que. Pas tout.
J'attends toujours, les gars.
Je regarde, je ne sais pas.
Non, ouais, c'est des biais cognitifs.
Ouais.
Des vrais biais cognitifs.
Trop intéressant. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci
de m'avoir accueilli. À bientôt. Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'études t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on te propose avec Our Millennials Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau !